14h à Paris, 6h à Port-au-Prince, 7h à la Nouvelle-Orléans. La dernière demi-heure d'RFI Midi consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Dans une minute, le journal de Karine Bellicha. Haïti qui célèbre 221 ans d'indépendance. Christophe Paget est en studio, ce sera au cœur de sa revue de presse. Ce 1er janvier, célébré chaque année par les Haïtiens avec la soupe Joumou. Reportage en région parisienne avec une Haïtienne qui perpétue la tradition. Le journal des Outre-mer à la présentation ce mercredi 1er janvier. Benoît Ferrand et Benoît, en 2025, on continue de parler de la vie chère.
Oui, problématique particulièrement vive en Martinique, bien sûr, on le sait, mais on en parle également en Guadeloupe. Nous entendrons tout à l'heure le préfet de la Guadeloupe.
À tout à l'heure. Enfin, on prend des nouvelles du Pérou, où des vagues destructrices continuent de frapper les côtes nord du pays. On ouvre ce journal, Karine Bellicha, avec cette attaque meurtrière aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans précisément.
En pleine célébration du Nouvel An, un camion a foncé sur la foule. Bonjour Loubna Naki.
Bonjour.
Vous êtes à New York pour RFI. Les autorités parlent désormais officiellement d'attentat, Loubna.
Oui, absolument. Il y a tout juste quelques minutes, la maire de la Nouvelle-Orléans, lors d'une conférence de presse, a effectivement annoncé que sa ville avait été, je cite, victime d'un acte terroriste. Le gouverneur de Louisiane dénonce, je cite, un acte de violence horrible. Je précise que les membres du FBI présents, eux, ne parlent pas encore d'attaque terroriste, mais c'est une différence technique. L'agence fédérale a besoin de plus d'éléments pour utiliser ce terme. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'aux alentours de 3 heures du matin, un homme au volant d'un pick-up a foncé sur la foule de gens qui fêtaient le Nouvel An. Il a ensuite ouvert le feu sur des policiers sur place. Il voulait faire le plus de victimes possible, a affirmé la chef de la police locale, qui a assuré qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'attaquant avait préparé son acte. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et d'au moins 35 blessés. Deux policiers figurent parmi les blessés. À ce stade, pour le moment, les autorités ne donnent pas d'informations sur l'attaquant. On ne sait pas si l'homme a été arrêté ou s'il a été abattu par les policiers dans la foulée de l'attaque. Il faut savoir que Bourbon Street se trouve dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans, le French Quarter, là où il y a tous les bars, tous les restaurants, le quartier où les gens font faire la fête. Et donc, il y avait effectivement beaucoup de monde cette nuit sur place.
Loubna Anaki, en direct de New York.
Depuis ce matin, Karine, le gaz russe ne transite plus par l'Ukraine. Le robinet est fermé.
Kiev et Moscou l'ont confirmé. Le contrat de 5 ans signé en 2019 n'a pas été reconduit. Un événement historique pour l'Ukraine qui se félicite des pertes de marché que cela représente pour les Russes. Cet arrêt avait été largement anticipé par les autorités européennes. Sur le terrain, la guerre continue. Deux personnes ont été tuées, 7 autres blessées aujourd'hui à Kiev dans une attaque de drones de Moscou.
Et le président ukrainien, lui, s'est adressé à ses concitoyens hier soir.
Volodymyr Zelensky souhaite, dit-il, se battre sur le champ de bataille, mais aussi à la table des négociations, alors que la poussée russe continue à l'Est. Dans 20 jours, Donald Trump, lui, entre dans le bureau ovale. L'année 2025 s'annonce décisive. À Kiev, Emmanuel Chaz.
Les Ukrainiens savent ce que signifie ne pas attendre de voir ce que demain apportera et de combattre chaque jour, chaque année pour leur liberté. C'est avec ces mots que Volodymyr Zelensky a qualifié l'année écoulée qui s'achève alors que l'incertitude est le maître mot de celle qui commence pour des millions d'Ukrainiens. Ici, tous les yeux sont tournés vers Washington, l'allié jusqu'à présent le plus important de Kiev, notamment en matière d'équipement militaire, et vers le 20 janvier, au moment où débutera la présidence Trump et un changement de politique dont on ne sait pas encore quelles vont être les conséquences sur l'Ukraine. Alors que l'armée ukrainienne a peiné cette année à contrer l'agression russe, notamment dans l'Est où les troupes russes ont avancé vers Pokrovsk qui pourrait tomber dans les prochains mois, si la guerre se poursuit, l'Ukraine devra repenser ses méthodes de mobilisation à un moment où de plus en plus d'Ukrainiens, mais pas une majorité, envisagent des concessions territoriales après près de 3 ans de terreur. Cette année, Kiev devra aussi relever le défi énergétique après une année de bombardement intensif de ses infrastructures électriques et les menaces de couper l'approvisionnement en énergie de la part de la Slovaquie. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Le passage à la nouvelle année a été célébré au poste frontière de la Roumanie et de la Bulgarie. Ce 1er janvier marque l'entrée totale des deux pays dans l'espace Schengen. Les contrôles aériens et maritimes avaient déjà été levés. Depuis la nuit dernière, il n'y a désormais plus de restrictions au poste frontière. Fini les longues files d'attente, surtout pour les routiers. La porte à l'espace de libre circulation européen est ouverte, soit l'accès à 25 des 27 pays de l'Union, ainsi que certains de leurs voisins, comme la Suisse ou la Norvège.
RFI 14h05 à Paris, en France. Pour ses vœux, Emmanuel Macron a voulu innover hier soir.
Un clip de 3 minutes, suivi d'une courte allocution, tout en appelant à un ressaisissement collectif. Le président a esquissé un mea culpa. La dissolution a créé, selon ses mots, plus de division que de solution. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait consulter les Français sur certains sujets, sans préciser de quelle manière, référendum ou convention citoyenne.
La France encore, Karine, dans ce journal. À partir d'aujourd'hui, les autorités recommandent plus de vaccination contre les méningocoques.
Il faut dire que depuis quelques années, ce type d'infection est en nette progression. Les méningocoques peuvent être responsables de méningites extrêmement graves, notamment chez les enfants et les adolescents. Vincent Danilo.
Forte fièvre, maux de tête et raideur de la nuque, voilà les principaux symptômes d'une méningite bactérienne. Si elle n'est pas soignée à temps, cette méningite peut tuer de manière foudroyante. Cette année, le Centre national de référence des méningocoques a déjà enregistré plus de 500 cas, du jamais vu depuis 20 ans, selon l'Institut Pasteur. Pour expliquer cette hausse, il y a plusieurs raisons. D'abord, pendant la pandémie du Covid, les Français étaient beaucoup moins exposés à ces bactéries en raison des restrictions sanitaires. Le nombre de vaccinés a donc également chuté. L'autre raison majeure, c'est que le profil de cette famille de bactéries a changé et aujourd'hui, les souches les plus dangereuses gagnent du terrain. À compter de mercredi, la vaccination chez les nourrissons sera donc rendue obligatoire contre toutes les souches de méningocoques. Avant, le vaccin ne traitait que certaines d'entre elles. Pour les adolescents âgés de 11 à 14 ans, une dose de rappel sera recommandée. À noter que le vaccin sera largement pris en charge par l'assurance maladie.
Du sport et du basket pour refermer ce journal et cette nouvelle belle performance de Victor Wembanyama en NBA hier soir.
Le Français et son équipe de San Antonio l'ont largement emporté face aux Clippers de Los Angeles, 122 à 86. Il a marqué 27 points à lui tout seul. Nouvelle performance pour sa deuxième saison dans la Ligue nord-américaine et ses ambitions pour 2025 sont grandes. Victor Missistrano.
Lorsqu'un journaliste demande à Victor Wembanyama ses vœux pour 2025...
Le bonheur, la santé et les playoffs.
Les playoffs, la phase finale, les Spurs n'y pensaient même pas la saison dernière. Huitième de la conférence Ouest, ils sont cette fois dans le bon wagon et le doivent en grande partie aux Français, qui continuent de monter en régime des deux côtés du terrain. Bilan positif désormais, 17 victoires et 16 défaites. Arrivé cet été, le meneur de jeu Chris Paul a apporté son expérience à San Antonio. Et à 39 ans, il découvre le phénomène de 2m24.
Je n'ai pas de mots pour dire à quel point il est mature, sa mentalité, sa volonté de progresser. Et je pense que tout le monde oublie que ce n'est que sa deuxième année en NBA. Il facilite tellement le jeu, ses contres, sa défense. Je n'ai jamais vu ça. J'ai joué avec de grands défenseurs, mais lui, il a juste un don pour contrer les tirs adverses.
Les contres, oui, je travaille ça à l'entraînement, bien sûr. Mais c'est plus, c'est un vrai travail mental, en fait, d'aller chercher le contre. Et souvent, dans des moments où on se dit que c'est pas possible d'aller contrer, mais il faut réussir à surpasser ça. Donc, c'est un gros travail mental.
Il faudra défendre samedi sur le pivot de Denver, Nikola Jokic, considéré comme le meilleur joueur du monde. Nouveau gros test, donc, pour Victor Wembanyama, le jour de ses 21 ans.
Et puis un mot du Vendée Globe pour finir au large du Brésil. Charlie Dalin a creusé l'écart avec son principal adversaire. Il est toujours en tête au dernier pointage. Il a quasiment doublé son avance sur Johan Richaume dans la course autour du monde, sans assistance et sans escale. Voilà Nemo, c'est la fin de ce journal.
Merci Karine Bellicha pour cette édition. On vous retrouve tout au long de la journée. RFI 6h10 à Port-au-Prince.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
Elle est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021 et traditionnellement mangée chaque 1er janvier par les Haïtiens qui célèbrent ce jour-là son indépendance. Cette année, c'est le 221e anniversaire. La soupe Joumou, Lila Olkinuora, s'est rendue en banlieue parisienne à la rencontre de la traiteur Wismond Saint-Ville. Elle fait vivre la tradition de ce plat, symbole de libération du peuple haïtien.
Quelque part entre les aéroports du Bourget et de Roissy, Wismond ouvre les portes de sa cuisine.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors moi, c'est Wismond Saint-Ville.
Je suis en fait wedding planner et traiteur en même temps. Et je suis haïtienne, je suis née en Haïti, voilà.
C'est par amour que Wismond Saint-Ville a quitté le département du plateau central en Haïti pour la région parisienne il y a une vingtaine d'années. Attachée à sa culture, elle l'a fait vivre et la transmet au fourneau. Sur une affiche qu'elle a placée dans sa salle à manger, Wismond prend la pose en blouse de cuisine, toque sur la tête, devant un riz djon djon et d'autres plats haïtiens. Aujourd'hui, Wismond Saint-Ville cuisine la soupe Joumou, la soupe de l'indépendance d'Haïti. Dans sa cuisine, deux grandes marmites en inox sont déjà sur le feu. De la viande dans l'une, dans l'autre, le giromont.
Le giromont, c'est de la même famille que le potiron, potimarron.
Donc le giromont qui a une peau vert foncé et une chair un peu orange, jaune, oui, un peu jaune.
Les textures sont différentes. Par exemple, le giromont, c'est beaucoup plus onctueux que le potiron.
Un ingrédient essentiel qui donne son nom à la soupe, giromont, c'est joumou en créole haïtien.
Si le giromont n'est pas bon, alors là, c'est mort.
Choux, céleri, thym, persil, Wismond Saint-Ville ajoute petit à petit les légumes dans la marmite de giromont mixée. Elle suit la recette traditionnelle.
Là, je fais la recette de ma grand-mère même. C'est la raison pour laquelle j'achète un jarret de bœuf. Je ne prends pas n'importe quelle partie.
C'est votre grand-mère qui vous a appris à faire la soupe joumou?
Ma grand-mère et ma maman, bien sûr. Ça évoque mon enfance, quand maman elle me donne de la soupe pour amener à ma grand-mère, aux voisins, partout. Voilà, je pense à tout ça, le partage.
La soupe joumou, c'est une histoire de transmission. La veille, Wismond a appelé sa mère qui vit aux États-Unis pour vérifier que sa recette correspondait bien à la recette originale. Mais ce n'est pas qu'une histoire de transmission culinaire.
Les esclaves n'avaient pas le droit d'en manger. Ils n'avaient pas le droit de toucher au giromont. Et même lorsque c'est eux qui les a cultivés. Et après notre indépendance, après notre victoire et sur l'armée Bonaparte, tout le monde se met à boire, à manger, on va dire, cette soupe. Alors, en mangeant cette soupe, on sent vraiment qu'on est libre.
Et l'odeur de la soupe qui bout ramène Wismond Saint-Ville à son département natal, elle qui n'a pas pu rentrer au pays depuis 2021.
C'est une odeur tellement parfumée, de fraîcheur, et ça m'inspire la liberté. C'est comme si on avait des ailes comme ça pour s'envoler et retrouver notre cher pays d'Haïti. Mais je ne sais plus si je commence à en parler là. Je vais pleurer.
Comme les autres membres de la diaspora, elle rêve de voir son pays s'apaiser. Wismond souhaite retourner en Haïti pour sa retraite. En attendant, elle trouve du réconfort dans les saveurs de la soupe joumou.
C'est comme si j'étais en Haïti. Et même s'il fait un petit peu froid, plus froid ici, mais la soupe nous réchauffe le cœur.
Reportage de Lila Olkinuora qui nous met forcément l'eau à la bouche. La soupe joumou, c'est le symbole de l'indépendance de Haïti. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Et vous nous en parlez dans votre revue de presse haïtienne aujourd'hui.
Oui, dans Alta Presse, Watson Denis, docteur en histoire, écrit « Le leitmotiv de la révolution haïtienne s'est fait autour du principe idéologique « l'union fait la force ». Quand on s'est départi de cette voie émancipatrice, on s'est dévoyé jusqu'à perdre le Nord. » Et l'auteur d'appeler à recoudre le tissu social au lieu de continuer à le déchiqueter pour recommencer la route de l'émancipation véritable du peuple haïtien. Mais la route est longue, semble répondre le National. L'année 2024 restera gravée dans les mémoires comme une période où la crise politique a atteint son paroxysme. Entre démission du Premier ministre Ariel Henry sous la pression des gangs, transition politique difficile, avec un scandale de corruption qui secoue le Conseil présidentiel de transition. En 2025, le défi est de taille pour la classe politique, écrit le National. Rétablir l'ordre et la sécurité, tout en redonnant confiance aux citoyens et en construisant un avenir politique durable.
Blackout à Porto Rico, l'île privée d'électricité pour le nouvel an.
Oui, contraste frappant entre les unes de journaux présentant des villes aux gratte-ciels illuminés, avec des ciels où explosent les feux d'artifice, le New York Times, le quotidien mexicain Excelsior, et le sort de Porto Rico, cette île des Caraïbes associée aux États-Unis et privée d'électricité depuis hier. Mardi soir, écrit USA Today, plus de 82% des clients de la compagnie Luma Energy, qui fournit le territoire, passaient le réveillon du nouvel an sans électricité, sachant que l'île est une destination populaire pour les vacances de fin d'année. Selon Luma Energy, le blackout pourrait venir d'une défaillance sur une ligne souterraine. L'île a souvent des problèmes d'alimentation électrique à cause, écrit Politico, de la fragilité de son réseau, en grande partie due à de la négligence et au manque d'investissement de l'entreprise publique. Jennifer González-Colón, la nouvelle gouverneure de Porto Rico, affirme sur X que stabiliser ce système sera sa priorité quand elle prendra ses fonctions.
Christophe, un autre pour qui l'année 2024 s'est mal terminée et pour qui 2025 commence de la même manière, Justin Trudeau. Les appels à la démission du Premier ministre canadien se multiplient.
Oui, y compris à l'intérieur de son propre camp, souligne le Globe and Mail. Les députés libéraux du Québec ont rejoint leurs collègues d'Ontario et des provinces de l'Atlantique pour demander son départ. Alors que le quotidien La Presse écrivait il y a deux jours que le taux d'approbation de Justin Trudeau est passé de 30 à 22%, son pire score. Même chose pour les intentions de vote de son parti, ce qui explique la grogne des députés. Selon le Globe and Mail, Justin Trudeau serait en train de réfléchir à son futur alors qu'il est en vacances avec sa famille en Colombie-Britannique. Pour Zachary Rivad, étudiant en journalisme qui signe une tribune dans Le Devoir, le temps n'est plus à la réflexion mais à la démission. Il rappelle qu'en 1984, Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau, avait lui annoncé sa démission, alors que Justin s'entête à faire le contraire.
La suite de votre revue de presse, Christophe Pagé, dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
RFI Midi, Amérique Matin.
Nouvelle année, nouveau budget. On prend la direction du Chili où dans le projet pour l'année 2025, on trouve une augmentation de 37% du budget de Chilequida, un programme à destination des personnes dépendantes ainsi que de leurs aidants. Cette hausse doit permettre à 30 000 personnes en situation de dépendance de bénéficier de soins prodigués par des professionnels. Objectif, selon le président chilien Gabriel Boric, permettre à leurs aidants de se reposer et d'avoir une vie privée. Voilà en fait quelques années que le pays tente de visibiliser le travail des proches aidants non rémunérés et qui est bien souvent exercé par des femmes. Reportage à Santiago de Naila de Rouané.
Dans le centre de la capitale, la mairie d'Estación Central a déployé plusieurs stands pour faire connaître les différentes aides sociales dont peuvent bénéficier les plus précaires. Sous l'un des chapiteaux, Lydia tente de faire connaître l'association de femmes aidantes dont elle fait partie.
On s'occupe des personnes fortement dépendantes, celles qui sont abandonnées par le système. On essaye de rendre visible notre travail pour que d'autres mères ne souffrent pas, contrairement à nous qui avons été complètement seules.
Le fils de Lydia a 18 ans, il est en fauteuil roulant et souffre d'un sévère handicap physique et cognitif. Elle s'occupe de lui, seule, tous les jours depuis sa naissance.
Je fais partie de ces 80% de la population qui n'a pas le privilège d'avoir un salaire décent.
Lydia n'a pas d'emploi, elle n'a pas le temps, elle ne reçoit que 300 euros par mois et elle a deux autres enfants à charge. Impossible de payer une aide à domicile ou encore un kiné pour son fils handicapé. Alors c'est elle qui fait tout.
Son corps est en bonne santé et c'est grâce aux exercices que je lui fais faire que ses muscles ne se sont pas atrophiés. C'est ma grande consolation.
Mais cela n'empêche que parfois, elle craque.
Entre l'enfermement, la solitude et l'ignorance, on garde beaucoup de tristesse en nous.
Depuis environ un an, Lydia voit une psychologue gratuitement grâce à un programme mis en place par le gouvernement pour apporter un soutien moral aux personnes aidantes.
Libérer cette tristesse, c'est une très bonne chose. Avant, je parlais et je pleurais, je parlais et je pleurais. Maintenant, je ne pleure plus autant.
Pour 2025, le gouvernement de Gabriel Boric a prévu d'augmenter de 60% le budget dédié à soutenir les aidants. Ces derniers peuvent, en fonction de leurs besoins, solliciter l'aide de psychologues, de kinés ou demander une assistance ménagère. L'objectif étant de soulager leur quotidien et leur octroyer du temps.
Hola, Pamela.
Pamela, 56 ans, habite dans un quartier populaire du centre de Santiago, dans une maison basse et sombre, où elle vit avec sa fille âgée de 32 ans et sévèrement handicapée.
Je suis ses jambes et ses bras. Je dois la laver, l'habiller, lui donner à manger.
Pamela touche 300 euros par mois, l'aide adulte handicapée de sa fille et la pension alimentaire du père, mais rien pour son rôle d'aidante.
Pourtant, j'estime que c'est un travail. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. On n'a pas le droit de tomber malade. On ne peut pas se reposer. Ça use physiquement et psychologiquement. Prendre soin des autres, ça nous détériore. Ça consomme notre vie.
Ça consomme la vie.
En plus des nombreuses douleurs physiques, car elle doit lever sa fille tous les jours, Pamela souffre aussi de troubles dépressifs.
C'est compliqué d'être stable émotionnellement quand on n'a pas de stabilité économique. Et puis, tous les jours se ressemblent. C'est la routine, vous comprenez ?
Aujourd'hui, à travers le programme mis en place par le gouvernement, Pamela reçoit l'aide d'une assistante de soins, d'une psychologue et d'une kiné pour sa fille.
Il reste encore beaucoup à faire. Mais ce qui s'est mis en place ces deux dernières années, c'est grandiose si je compare avec les 30 dernières années de complète solitude.
Et ça lui libère du temps pour manger tranquillement le midi ou encore simplement souffler pendant quelques instants. Mais ce que Pamela souhaiterait par-dessus tout, c'est
me reposer sur une chaise de plage et écouter la mer.
Selon Francisca Gallegos, sous-secrétaire des services sociaux, le travail des aidants au Chili représenterait pourtant
25,6% du PIB amplifié, c'est un apport beaucoup plus important à l'économie que les autres gros secteurs comme la finance ou encore l'exploitation minière.
Une grande partie des femmes aidantes n'ont jamais cotisé pour leur retraite. Elles sont inquiètes pour leur vieillesse, mais craignent surtout de ne plus pouvoir prendre soin de ceux qui, durant toute leur vie, ont entièrement dépendu d'elle. Naïla de Rouané, Santiago, RFI.
Radio France Internationale, 10h21 à Santiago, 8h21 à Lima, chez le voisin, au Pérou, où les côtes nord du pays continuent d'être frappées par des vagues destructrices. Un phénomène rare dans cette région du globe, provoqué par la combinaison des conditions atmosphériques et des courants marins qui se croisent. Illustration aujourd'hui à Mancora, où l'océan a détruit une grande partie du littoral de cette station balnéaire. RFI Lima, Martin Chabal.
Les vagues n'ont laissé que des morceaux de béton sur la plage de sable blanc de Mancora. Juan, 71 ans, est pêcheur. Il a du mal à trouver les mots pour décrire la violence des vagues qui ont tout emporté il y a 3 jours.
Ça
a dépassé le haut du quai. Ça a emporté des bateaux qui ont été réduits en poussière.
Et la situation risque de durer encore une semaine. Juan ne peut toujours pas aller pêcher.
Je vends, bien sûr. Moins de poissons. On ne peut pas sortir nos bateaux à cause du drapeau rouge.
Un peu plus loin, le long de la plage, Carlos est obligé de nettoyer les restes de son hôtel. Il se confie au bord des larmes.
Ici, c'était des chambres partout. Maintenant, il n'y a plus que du sable. Là, tu avais des cabanes de 2 étages. Tout est parti à la mer.
Les sacs de sable de plus d'une tonne n'ont pas permis de stopper le raz-de-marée. Les dernières estimations font état de pertes de près de 200 000 euros pour cette petite ville. Martin Chabal, Lima, RFI.
Et Christophe Paget, la suite de votre revue de presse avec le Panama qui a célébré hier un quart de siècle de souveraineté sur le célèbre canal.
Oui, souveraineté, un mot sur lequel le président Mulino a insisté hier, c'est-à-dire dans l'Estrella de Panama. Il est important que nos jeunes aient à l'esprit le prix énorme de la lutte et du sang qui a été engagé pour hisser notre drapeau en ce lieu comme signe indubitable de souveraineté. Une référence très claire aux menaces du président américain élu, Donald Trump, de reprendre le contrôle du canal. À lire dans le New York Times un article liant au changement climatique les déclarations de Donald Trump sur une éventuelle prise de contrôle par les États-Unis du canal de Panama, mais aussi du Groenland. Alors, le Groenland d'abord. La fonte des glaces ouvre des perspectives de forage pétrolier et gazier et d'extraction de minéraux. Une fonte des glaces qui a déjà, ces 10 dernières années, permis d'ouvrir de nouvelles routes commerciales, alors que le canal de Panama a connu en 2023 une sécheresse qui a très sérieusement handicapé ses opérations. Interrogé par Le Quotidien, un spécialiste de l'université de Stanford estime que cet intérêt de Donald Trump pour le canal du Panama et le Groenland sont une sorte de reconnaissance indirecte de la réalité du changement climatique, dont il continue de nier l'existence, et du fait qu'il engendre des défis mondiaux.
La revue de presse de Christophe Paget. Merci Christophe.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer présenté par Benoît Ferrand ce mercredi. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et à la une, la vie chère, à la une de cette première édition de l'année donc.
La vie chère qui continuera certainement à marquer l'actualité des Antilles en 2025. La problématique a été, on le sait, particulièrement vive en Martinique l'an dernier, mais elle concerne évidemment aussi l'autre île des Antilles. Écoutez d'ailleurs à ce sujet les « bonnes résolutions » entre guillemets du préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort. Il est au micro de Ludivine Guillolet.
Ce que nous allons faire cette année, c'est ce que nous avons d'abord commencé à faire en 2024, c'est-à-dire un travail avec les acteurs politiques, les acteurs économiques, pour s'emparer de ce sujet. C'est un sujet qui ne se résout pas en quelques semaines. C'est un sujet qui touche à la fois à nos problématiques d'approvisionnement, nos problématiques d'isolement, nous sommes une île au milieu de l'Atlantique, à notre modèle économique qui a ses spécificités, ses raisons, son origine, ses spécificités, qui touche aussi à nos problématiques de production, de productivité. Voilà, c'est un ensemble, c'est pas un problème qui se résout par un coup de baguette magique, c'est un problème qui demande effectivement beaucoup de travail, beaucoup de lucidité, beaucoup de courage, et c'est un problème qui se résout dans la sérénité avec des acteurs qui sont les acteurs politiques, parce qu'on est en démocratie. Et ça, c'est extrêmement important, voilà, de travailler avec tout le monde et de travailler avec les institutions. Et ce, évidemment, à voir quoi on va s'employer. On a commencé à le faire cette année, hein, de façon très concrète, avec des contrôles, avec un travail économique, avec un travail sur la fiscalité, avec les différents acteurs économiques, voilà, et qu'on va poursuivre l'année prochaine. Mais je souhaite que ce travail se poursuive avec tous les acteurs autour de la table et de façon apaisée, sereine. Je pense que c'est comme ça qu'on va trouver les solutions à une problématique, encore une fois, qui n'est pas une problématique aussi simple que certains. Certains, effectivement, le pensent ou le disent.
Direction la Martinique maintenant, avec l'une des traditionnelles questions du Nouvel An. Quelles sont vos bonnes résolutions ? Propos recueillis par Xavier Chevalier.
Peu d'informations ont fuité depuis le 24 décembre.
Non, ça, ce n'est pas Xavier Chevalier, c'est tout à fait autre chose. Mais notre technicien va nous trouver tout de suite les bonnes résolutions des Martiniquais, interrogés donc dans la rue en ce 1er janvier 2025 par Xavier Chevalier.
Que les Martiniquais, que les Antillais s'entendent et puis voilà, que l'un ne tire pas sur l'autre et qu'on avance main dans la main.
Être tous en forme physiquement et avoir tous la santé et avoir une meilleure année que 2024.
Trouver du boulot et puis être à l'aise financièrement.
Pas vraiment de bonne résolution, c'est-à-dire continuer dans la dynamique, hein, essayer de faire mieux les choses qu'en 2024 et puis de bien passer l'année, surtout en santé.
J'en ai pas, hein. Faut pas changer et faut se fixer des objectifs et les atteindre, enfin c'est tout.
Comme chaque année, perdre du poids. On commence, 2-3 mois, après on relâche et après les habitudes reviennent.
Pour 2025, avoir une meilleure année que 2024 déjà et réussir mes objectifs que je me mets pour pouvoir réussir mes études et la santé aussi.
Voilà, bonne année à toutes et à tous et à demain.
Merci Benoît Ferrand, bonne année à vous également. Mercredi 1er janvier ici sur RFI, 14h27. On referme cette demi-heure et cette édition d'RFI Midi. En musique, direction la Jamaïque et la République Dominicaine avec Skilly Bing et Tokisha. Le titre, il est explosif comme la musique. C'est Boom et c'est en playlist RFI ce mois-ci.
Waffling the pussy by me. Yes, it's just boom, 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 boom. Waffling the pussy by me. Say if she never have a man, she give me fast. I woulda give me one son, or give me one daughter and a drama. Say she woulda ride me like Hayama and a laughter. Say she want a fuck hotter than a sauna. With your rubber dub, anywhere you rather in a water, me we cock you up, fuck your pamba and it no matter. Baby girl, you act, you call your papa, want to blow you like a farmer with a fucking under carrier. Boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum. Yes, she just waffling the pussy for me. Yes, she just boom, do dum dum. Pussy by me.
He come out pussy say Miss Fatty Fatty. Pussy so tight, gon' make him a murder. Él es malo, pero conmigo romantic. Me boss a wine and spice on me like it. This your pussy, papi, broke it down. Le doy pussy todos los días, la tengo vicia. Web una ni come inside, metelo de la. Sabe que soy bad girl, wanna wipe me down.
Boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum. Yeah, she just waffling the pussy for me. Yeah, she just boom, do dum dum, 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 waffling the pussy for me. Yeah, she just boom, do dum dum, 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 waffling the pussy for me. She just
she just waffling the pussy by me.
Boom de Skilly Bing et de Tokisha pour refermer cette édition d'RFI Midi. Merci à Maël Guyot à la réalisation, à Jacques Alix à la rédaction en chef. Il est 14h29 ici à Paris.
Cette semaine, RFI vous invite tous les jours au concert.
Vivez ou revivez les meilleurs moments des concerts enregistrés en 2024 par RFI. Retrouvez ce mercredi Fally Ipupa, l'aigle du Congo.
On va tous les ambiancer.
C'est à 20h10 TU sur l'antenne, sur notre site internet et sur la chaîne YouTube de RFI Musique.